comprendre?
Ah, oh, pas de problème. Je comprends toujours vite quand on m'explique longtemps. Donnez-moi la force de comprendre, car
ces visions me semblent. Monsieur Carly est en pleine forme, co-animateur de l'émission Géniale. Tu vois qu'on n'a plus le droit de rien dire au Québec?
Non, mais je suis d'accord avec toi qu'on a beaucoup plus de plateformes pour s'exprimer, ça c'est certain. Donc, c'est plus juste certaines personnes qui ont une certaine tribune pour pouvoir s'exprimer. Mais on entend plein d'affaires. Hein?
Je rajouterai juste un mot là-dessus brièvement, pour ne pas voler ton temps d'antenne non plus là-dessus. Là. C'est que la différence aussi, c'est que la rétroaction et la varlope arrivent pas mal plus vite qu'elle arrivait aussi. Quand vous avez l'impression qu'on n'a plus le droit de rien dire, c'est que la rétroaction de l'autre qui prend son droit de s'exprimer est là aussi.
Ben, peut-être que ceux qui disent qu'on n'a plus le droit de rien dire font partie de ceux qui chialent quand on coupe une section commentaire dans un quotidien sur le web, ainsi de suite, parce qu'on voit les commentaires, on dit « Hippelay! »
Une découverte potentiellement révolutionnaire pour le traitement du cancer du sein.
Oui, allons-y avec une nouvelle qui est très positive. On sait depuis longtemps qu'il y a des bactéries qui vivent dans notre corps. Hein? Et quand je parle de ça, bien entendu, on pense tout de suite à notre flore intestinale. Donc, le fait qu'il y ait des millions et des millions de bactéries qui vivent à l'intérieur de notre système digestif, qui nous permettent d'accomplir certaines fonctions, donc de favoriser l'absorption de certains nutriments, et ainsi de suite, ça, on le sait. Il faut aussi savoir que plusieurs fois à l'antenne, ici au 98.5, j'ai mentionné le fait qu'il y avait des liens entre la santé, la composition, les caractéristiques de notre flore intestinale personnelle et notre état de santé général. Donc, on sait que ces bactéries-là peuvent influer sur le fait qu'on ait telle ou telle maladie. Donc, il y a carrément un lien entre les deux. Mais là, ce que les chercheurs soupçonnaient, c'est que qu'on a des microbiomes ailleurs que juste dans notre intestin, qu'il y a d'autres endroits dans notre corps où on retrouve une certaine concentration de bactéries et que ces bactéries-là peuvent avoir un impact sur notre santé. Un de ces endroits-là, c'est au niveau des seins. Donc, on se doutait bien que au niveau des seins, qu'on aurait une certaine concentration de bactéries. Donc, on aurait aussi un microbiome à cet endroit-là et que peut-être que la composition de ce microbiome au niveau des seins aurait un impact au niveau du cancer du sein, donc le fait de l'avoir ou de pas l'avoir. Ça, c'était l'hypothèse qu'on avait jusqu'à maintenant. Alors, eh bien, jusqu'à maintenant, on n'avait pas réussi à caractériser cette flore bactérienne-là au niveau des seins. Eh bien, des chercheurs ont réussi enfin à caractériser ça. Et ils ont aussi vu des différences entre cette flore bactérienne-là au niveau des seins chez les femmes qui n'ont pas de cancer du sein par rapport aux femmes qui ont le cancer du sein. Donc, il y a carrément une différence entre les deux. Et c'est ça qui ouvre une porte révolutionnaire à des pistes de traitement contre pour enlever ce satané cancer du sein. Je le rappelle, le cancer du sein, c'est le deuxième cancer qui touche le plus les femmes. On parle d'un cancer qui va toucher une femme sur 8 au cours de sa vie. Donc, c'est énorme.
Ben oui.
Ça a comme pas de bon sens. Donc, si on réussit à guérir ça, on s'entend qu'on va déjà toucher un des gros problèmes de santé chez les femmes, chez les hommes aussi, mais évidemment particulièrement chez les femmes. Alors, qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire? Ben, ils ont pris des échantillons de sein suite à des mastectomies chez 78 individus. On parle d'échantillons ici de tumeurs dans certains cas, parce qu'il y a des femmes qui se sont fait enlever les seins à cause de la présence de tumeurs. Mais on parle aussi d'échantillons pour avoir des contrôles, d'échantillons de femmes qui se sont fait enlever une partie du sein pour des raisons esthétiques. Donc, par exemple, ceux qui veulent avoir une réduction mammaire.
Oui.
Bon. Donc, en faisant ça, on a donc accès à des échantillons sains et des échantillons avec du tissu tumoral. Donc, on peut faire des comparaisons entre les deux. Et là, on s'est rendu compte qu'un type de bactérie qui s'appelle... je vais trouver le
est-ce
nom.
Est-ce que c'est en latin?
C'est le Methylbacterium. Donc, c'est un type de bactérie. Était en plus grande quantité dans le tissu
cancéreux.
Sain. Dans le tissu qui est normal et qui est sain au niveau de la poitrine que dans les tissus cancéreux. Donc, il y a carrément une différence au niveau de la présence de certaines bactéries, de un. Et de deux, on a aussi fait d'autres tests. On a fait des tests d'urine, donc essayer d'aller faire l'inventaire des bactéries au niveau de l'urine, faire aussi l'inventaire de bactéries au niveau de la gorge en prenant des échantillons de personnes qui se sont gargarisées, donc aller décoller certaines bactéries pour pouvoir aller les analyser. Et tout ça, c'était dans le but d'essayer de voir des sites éloignés, donc des sites plus difficiles d'accès où il pourrait y avoir certaines bactéries. Et est-ce qu'il y a un lien entre ça et la prévalence de cancer du sein chez ces personnes-là? Alors, Donc, la conclusion, c'est quoi? C'est que oui, il y a une différence au niveau de la flore bactérienne entre les personnes qui n'ont pas le cancer du sein et ceux qui vont l'avoir. Et là, ça nous mène à quoi? Ça nous mène à l'espoir d'être capable, au moins, donc là, le minimum qu'on espère être capable de faire, c'est au moins d'identifier des biomarqueurs, par exemple la présence d'une bactérie ou l'absence d'une certaine bactérie, pour être capable de faire un diagnostic rapide chez des femmes qui pourraient avoir le cancer du sein. Donc, simplement en faisant un test de culture bactérienne en laboratoire, après avoir prélevé un échantillon dans ton sein, on prévoit, as-tu la flore bactérienne qui te met à risque ou as-tu la flore bactérienne qui te met pas à risque?
Autrement dit, tu l'as pas, mais tu es plus à risque.
Ben, exactement. Donc, okay. Parce qu'on le sait que pour
un dépistage
précoce va permettre d'avoir un meilleur prognostic au niveau du traitement. Ça, c'est un. Mais les espoirs les plus fous, Mathieu, c'est quoi? C'est d'être capable de détecter juste avant la formation du cancer le fait que ça s'en vient, en regardant ces bactéries-là. Et deuxièmement, et c'est là qu'on rentre dans quelque chose qui pourrait potentiellement être une révolution, est-ce qu'on pourrait carrément changer le prognostic, changer l'avenir qui est programmé en injectant des probiotiques carrément dans les seins, dans la poitrine de la personne qui est à risque. Donc ça, c'est nos espoirs les plus fous. Imagine si ça fonctionne, on aurait vraiment une révolution. Vraiment. Vraiment. Donc ça, c'est une nouvelle potentiellement extraordinaire. Ordinaire là, cette semaine.
10h46, dans un instant, on poursuit avec Martin Carly. Je vous offre on vous offre le nouveau roman de Dan Brown, Origine, l'auteur du Code da Vinci, en train de cette fois son personnage Robert Langdon, dans une intrigue qui se déroule en Espagne. Et on va dans les dédales de l'histoire, des religions, sur une piste d'œuvres modernes, de symboles énigmatiques, comme le fait à l'habitude Dan Brown. Si ça vous intéresse, vous composez le 514-790-9850, 1-866-790-9850, le livre Origine de Dan Brown, au cinquième appel. 10h50 avec Martin Carly, la peste est-elle éradiquée?
Bien, ça va surprendre pas mal de monde. La réponse à ça, c'est non. Bien entendu, on imagine la peste comme étant une maladie terrible au Moyen Âge, qu'elle a été.
Oui.
On parle au 14e siècle, la fameuse Black Death, donc la mort noire à cause des symptômes de la peste à ce moment-là. On parle à cette époque-là que 60% de la population en Europe a été éliminée avec cette maladie-là. Mais en 2000...
C'est parti de ces grandes maladies là, comme la variole, le choléra, puis...
Oui, exactement. Donc, des maladies pour lesquelles on n'avait absolument aucune arme à une certaine époque. De nos jours, on a des armes, on a des antibiotiques, donc on est capable de combattre de telles maladies, mais ça ne veut pas dire qu'elles n'existent plus. Et la peste, elle existe encore. Il y a eu juste en 2015 aux États-Unis, il y a eu 16 cas de peste. Et il y a des endroits dans le monde où la peste fait son apparition de façon... 16 cas aux États-Unis.
On a attrapé ça où? Hein?
Mais ouais, c'est ça. Ça, c'est la bonne question. Mais à certains endroits du monde, comme au Pérou, au Congo, à Madagascar, on a carrément des pointes de peste une fois de temps en temps. Et là, en ce moment, mon cher Mathieu, on a une épidémie à Madagascar qui inquiète tout le monde sur la planète, un peu comme Ebola. Même l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, est sur le pied d'alerte parce que c'est pas une bonne nouvelle, surtout que dans ce cas-ci, on parle... En fait, il y a deux problèmes dans cette épidémie de peste-là à Madagascar. Premier problème, c'est que c'est la forme la plus grave de la peste qui se propage à Madagascar. Il faut savoir, on a tous entendu les termes peste bubonique.
Oui.
La peste bubonique, c'est la... Puis là, je parle relativement, bien entendu, c'est la moins pire des deux. OK? Ça, c'est la forme de la peste qui se transmet d'un rat à l'humain par l'entremise d'une puce. Donc, une puce qui va aller prendre un échantillon de sang sur le rat et, par la suite, peut aller contaminer un être humain par la suite. Mais là, ici, on parle d'une épidémie de peste pneumonique. Donc, une peste bubonique qui s'est aggravée et qui a été carrément infectée les poumons de la personne infectée. Et dans ce cas-là, c'est grave. Pourquoi? Parce qu'on a une transmission directe d'humain à humain simplement par la toux.
Quelqu'un
qui tousse peut contaminer tout le monde autour de lui. Et ça, c'est le premier problème. On a la forme grave de la peste ici. La forme plus grave, pas grave, parce que la peste bubonique, c'est elle qui a eu fait autant de dégâts en Europe. Donc, on le sait que ça peut faire des graves dégâts. Et deuxième problème, d'habitude, là, dans des régions comme ça, comme Madagascar, le Pérou et tout ça, ce sont des endroits reculés et inaccessibles où on voit l'éclosion de certains cas de peste. Mais ici, cette épidémie-là touche les plus grandes villes, dont la capitale, Antananarivo, la capitale de Madagascar. Donc, des endroits plus populeux. Donc là, tu as une combinaison explosive ici. Une forme grave de la peste et en plus dans des endroits populeux, imagine. Alors jusqu'à maintenant, à Madagascar, on rapporte 343 cas d'infection et 42 morts. Il faut savoir que si ce n'est pas traité, la peste, c'est fatal dans 100% des cas. On a des solutions, on parle d'antibiotiques particuliers qui peuvent combattre cette infection-là, mais il faut la prendre au début. Donc, si on attend trop, si l'infection s'est installée, on a des graves problèmes juste ici.
Mais tu te souviens, hein, il y a quelques années, quand tu as fait référence à Ebola, que Ebola était revenu, c'était en Guinée, si je me souviens bien.
Oui.
Ça avait pris origine dans des petits endroits, des petits villages.
Tout à fait.
Mais comme ça n'intéressait pas personne, parce que c'est dans un pays pauvre d'Afrique, ben, voilà. Tu t'es dit, il ne s'est rien passé, puis on n'a pas traité la maladie. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est propagée.
Ben, c'est souvent le cas. Ebola, tu l'as dit, c'est quand il y a eu un ou deux cas soupçonnés aux États-Unis, que tout d'un coup, la communauté internationale, c'est...
On le savait des mois d'avance.
Exactement. Dans le cas du Zika, même affaire. Quand ça touchait juste le Brésil, ça allait. Quand ça s'est mis à avoir de graves impacts à Miami, une des villes majeures aux États-Unis, whoop, tout d'un coup, tout le monde s'est mis sur le pied de guerre. Et ici, ben, le risque de contamination à l'étranger est plutôt faible, selon l'OMS, mais on a déjà un cas de contamination à l'étranger. Donc, un entraîneur de basketball des îles Seychelles qui, lors d'une compétition à Madagascar, aurait contracté la peste pneumonique et il serait décédé. On ne sait pas s'il est décédé à Madagascar ou à son retour aux Seychelles. Donc, il y a des possibilités quand même qu'il y ait une certaine propagation. Donc, ce n'est pas une bonne nouvelle, mais je termine en vous disant que l'OMS, donc, c'est quoi les interventions de l'OMS là-dedans? Bien, ils ont débloqué des fonds de 1,5 million de dollars pour donner un coup de main et on a envoyé plus de 1,2 million de doses d'antibiotiques appropriées à Madagascar pour essayer de combattre ça et d'endiguer ça. Honnêtement, là, moi, j'en parle souvent, ces maladies-là, je suis tout à fait de ton avis. Dès que ça apparaît, peu importe où, on devrait tous se serrer les coudes, on a les moyens. Il y a des compagnies qui sont capables d'offrir des solutions viables pour aider ces gens-là. Honnêtement, la science devrait être au service de tout le monde, pas juste au service des gens mieux nantis. Donc, quand on a des pays plus pauvres comme ça, ça sera le fun de les aider aussi. Donc, on espère que cette intervention-là de l'OMS va donner un coup de main.
Sur cet éditorial de Martin Carlier,
voilà.
Merci beaucoup.
Ben, merci à vous. Bonne semaine.
À samedi prochain.
Absolument.
Bye-bye. Merci à Frédéric Perron, alias DJ Passion, à François Arnois également à la recherche pour cet appui à cette émission. Merci beaucoup à vous d'avoir été là. Le rendez-vous, on vous le donne demain à compter de 7h. Dans un instant, pour les auditeurs du 98.5, c'est Vice Versa, fan de musique. Pour les auditeurs de l'Estrie et de la Mauricie, passez une bonne journée. Bye-bye.